Les échanges maintenant doivent se passer entre vous deux, avant de donner la parole à l'Assemblée. Et qu'est-ce que, dans le témoignage de l'un et de l'autre, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce serait bien de vous exprimer là-dessus.
Je voudrais demander à Swamiji, il a parlé d'évolution spirituelle, pas de conversion, etc. Donc, je voudrais savoir mieux, n'est-ce pas, comment Swamiji regarde tout ce qui se passe dans le cœur des personnes en face d'une autre religion ou bien quitter sa religion. Qu'est-ce qui arrive, comment est-ce qu'on appelle évolution spirituelle, pas conversion?
En général, ce qui concerne les traditions, je dirais orientales, c'est pas que la religion, je dirais. L'hindouisme, ce n'est pas que la religion. La raison principale, c'est que l'hindouisme, c'est une religion remplie de symboles. Et d'ailleurs, à la chambre du port, je n'arrête pas de me battre pour que les gens comprennent le symbole, non seulement le symbole des objets tenus dans les mains des statues qui indiquent quelque chose, mais surtout la traduction même du nom de ce qu'on appelle la divinité. Par exemple, tout à l'heure, comme le Père Vara a parlé de Shiva, ben Shiva, ça veut dire cela qui est bon, même pas celui, cela. Donc on peut parler de celui, de celle ou de cela. Vishnu veut dire cela qui imprègne tout. Donc comme ça, on peut aller tous les mots donc de l'hindouisme peuvent être compris à un certain niveau, je dirais comme un nom d'une personne, d'un personnage, d'une divinité. Mais plus tard, on doit comprendre la signification de ce mot-là. Ce n'est plus un nom à ce moment-là, c'est un mot. Alors c'est la raison pour laquelle lorsque nous rencontrons une personne qui est chrétienne, bon, je prends le cas de ma mère par exemple, ma mère est toujours catholique, je la dépose à l'église qui était juste à côté de l'ashram, puisqu'elle a 82 ans maintenant, elle n'a pas bien marché, donc on la dépose à l'église, et puis bon, elle va à l'église, et après elle revient à l'ashram, et souvent je lui dis, ben, qu'est-ce que le prêtre a dit? Alors, bien sûr, en boutade, elle me répond à chaque fois, le prêtre l'a dit, viens à la messe. Aucun problème. Mais je dis, dis au prêtre de venir aussi à l'ashram. Alors, par exemple, nous avons eu une expérience extraordinaire avec le Père Vara, parce que notre cheminement, c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait depuis des années, et ensemble, continuer à embrouiller d'autres personnes, nous cheminons ensemble. Un jour, il m'a invité à assister à une messe à l'indienne, à l'église de Saint-Pierre, et ensuite, après la messe, on a parlé de l'hindouisme. Dans l'église, parler de l'hindouisme, ça peut paraître un petit peu choquant pour certaines personnes, mais je crois que ça fait partie de cette tradition-là, de cette richesse. Et d'ailleurs, même Mgr Aubry est déjà venu à l'ashram aussi faire des conférences. Ça veut dire qu'à un certain moment, pour nous, ce n'est pas une question de religion, puisque l'hindouisme, c'est une vision de la vie. Et la vision de la vie, ce qui peut-être est, bon, chaque tradition a ses points forts et ses points faibles. Dans l'hindouisme, par exemple, on n'a pas un seul personnage, on va dire, à suivre. On peut suivre ses gourous ou son gourou. Je sais que le terme gourou est très mal utilisé, principalement dans la mentalité occidentale et dans la presse. Et j'arrête pas de rappeler que nos premiers gourous sont nos parents. Et ensuite, si on prend une voie spirituelle, ben, l'enseignant spirituel, c'est le gourou. Et donc, on n'a pas seulement une seule ligne, mais la personne qui accepte une seule ligne, un seul cheminement, elle est aussi respectée. Dans l'hindouisme, il y a ce terme de Ishtadevata, c'est-à-dire on va choisir la forme de Dieu que l'on préfère. Donc ça peut être Shiva, ça peut être Vishnu, ça peut être Murga, ça peut être Kali, etc. Et je crois que c'est cette richesse-là et cette multitude de possibilités, cette liberté en même temps, qui fait que lorsqu'on va trouver quelqu'un d'une autre religion, ça ne pose aucun problème. Parce que pour nous, c'est toujours une évolution de la personne vers quelque chose de supérieur que l'on appelle Dieu. Et d'ailleurs, je crois, quelles que soient les traditions, et le Père Vara avait abordé ça aussi, qu'est-ce que c'est Dieu? Qui est-ce? Est-ce une personne? Est-ce un état? Est-ce quelque chose d'indéfinissable? Comme on dit en Inde, définir Dieu, c'est le finir. Et souvent, le finir, on fait ce geste-là avec un pistolet. Donc on ne peut pas définir Dieu puisque c'est l'absolu. Alors c'est la raison pour laquelle, à un certain moment, je pense que la religion tel que conçu dans l'hindouisme, c'est une étape, une étape. Et après, on doit sortir du rituel, si on parle en général de la religion rituelle, puisque l'hindouisme est très ritualiste, les temples sont très rituels, du rituel au spirituel, c'est-à-dire au-delà du rituel. Mais cela va s'accompagner, bien sûr, d'une éducation, d'une formation. Donc c'est pour ça que le cheminement hindou, c'est aussi un cheminement qui va depuis l'enfance jusqu'à la mort. C'est un cheminement qui ne va pas tenir compte, je dirais, des croyances de la personne. Les sacrements hindous, ce sont des passages de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la vie adulte et de la vie adulte. Et plus tard, lorsqu'on décède, l'avantage de la swami, c'est qu'on fait nos propres funérailles avant de mourir. Ça, c'est ça aussi un des rituels à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je parle d'évolution spirituelle. Alors, donc, on ne tient pas vraiment compte du passé. Mes professeurs en Inde savaient très bien que je devais être, ils ne m'ont jamais posé la question, que je devais être, dans mon enfance, un pratiquant catholique. Et même pendant ma formation à Bombay, puisque j'ai été formé à Bombay, il y avait un ingénieur de la NASA qui était catholique. Dans sa chambre, il avait son petit autel avec sa représentation du Christ, et ça n'a jamais posé aucun problème. Je crois que c'est cette richesse de possibilités, de vision, qui, à mon avis, rend l'hindouisme original. Parce que l'hindouisme n'a pas de fondateur. Il n'y a pas, comme dans d'autres traditions, comme le bouddhisme, par exemple, un seul fondateur. Et il y a tellement de chemins, tellement de courants, tellement de possibilités, ben, ça nous laisse un choix extraordinaire.
Est-ce que tu aurais une question à poser à Pavara?
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le Pavara parlait de chasteté. Alors, il a précisé un petit peu ce qu'est la chasteté. Mais est-ce que la chasteté, c'est quelque chose qui est absolu, dans votre tradition?
Absolu pour qui? C'est-à-dire, chasteté est une option. Est une option. Il y a quelques personnes à l'intérieur de l'Église qui choisissent chasteté, célibat, pour... Il y a deux choses. On peut montrer que l'être humain peut être absorbé totalement par Dieu. Et c'est pourquoi on arrive à cette question de personne. On ne peut pas parler à une idée, à un symbole, mais on peut parler à une personne. Et le mot personne même, c'était nécessaire de nous dire qui est ce Dieu absolu. La philosophie grecque a donné quelques mots pour exprimer ce Dieu qui s'est fait homme, ses relations avec le Père, avec l'Esprit Saint. Donc on a fait venir le mot personne, nature, etc. Jésus n'a jamais employé le mot. Hein? Il y a trois personnes, moi je suis la deuxième personne. Il n'a pas dit ça. Donc, pourtant, entre les trois personnes, il y a une différence, une distinction. En même temps, ils sont unis en un seul amour. Et c'est ainsi que la chasteté en absolu a un sens comme ça. Que chaque personne peut s'offrir en vue d'une autre forme d'amour. On peut se donner et une autre forme d'amour qui le libère pour une autre manière de vivre l'amour, parce que personne ne peut renoncer à l'amour, mais en acceptant d'être seul, sans une femme, sans un mari, une religieuse, un religieux, un prêtre peut exercer l'amour d'une façon très différente. Cela, vraiment, je ne dirais pas chasteté absolue.
Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a l'équivalent en sanskrit, ce qu'on appelle brahmacharya, bon, c'est la chasteté. Et puis un jour, lors de nos études, on parlait du Ramayana, et on parlait que Rama était un brahmachari, alors qu'il avait une épouse, il avait des enfants. Donc c'est pour ça que les notions orientales et occidentales parfois diffèrent. Et donc, brahmacharya, la chasteté dans le contexte oriental et principalement hindou, c'est le contrôle des sens. Donc, ce n'est pas forcément la même notion qu'en Occident.
Il y a eu des saints et des saintes, tout en étant mariés, on arrivait à un amour, une forme d'amour différente.
Bien sûr.